En Italie, les dirigeants du mouvement 5 étoiles et de la Ligue présentent au chef de l'État la personnalité qu'ils ont choisie pour diriger le gouvernement. Il s'agirait, selon la presse, de l'avocat Giuseppe Conte. Les États-Unis promettent d'adopter contre l'Iran les sanctions les plus dures de l'histoire et Washington liste 12 conditions que le régime iranien devra remplir s'il veut conclure un nouvel accord. En France, ce sera demain la troisième journée de grève des fonctionnaires depuis le début du quinquennat. Cette fois, l'appel est lancé par tous les syndicats. Et puis le gouvernement veut montrer sa volonté de transparence concernant la nouvelle procédure d'accès à l'enseignement supérieur. Il dévoile le code source de la plateforme Parcoursup. Vers un gouvernement en Italie, en ce moment même, les chefs de file du mouvement 5 étoiles et de la Ligue, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, se trouvent au Quirinal, le palais du président de la République. Après presque 3 mois de crise politique, ils sont parvenus à un contrat de gouvernement et ils ont obtenu l'aval des militants des deux formations politiques. Les Italiens, eux, aussi, entre espérance et inquiétude. Le reportage de Mathilde Imberti à Rome.
À ce stade, une chose est certaine. Personne, pas même ce Romain âgé qui suit de près la politique, ne connaît le juriste qui pourrait devenir président du Conseil, un certain Giuseppe Conte. Un quasi anonyme qui devrait prendre les rênes du gouvernement si les deux formations alliées, Ligue et 5 étoiles, confirment ce choix et si Sergio Mattarella, le chef de l'État, l'accepte. Peu importe le nom, pourvu que les antisystèmes respectent leur engagement, répond cette électrice 5 étoiles.
On veut du travail pour les jeunes, de l'aide pour les personnes en difficulté et les familles. On a hâte de voir ce qu'ils peuvent faire.
Nettement moins confiante, voire franchement inquiète, Marisa, enseignante à la retraite, électrice de centre-gauche.
Ils n'ont aucune expérience. Ce sont des incapables à tendance extrémiste sur la question de l'immigration ou de l'économie. Ils disent qu'ils feront la révolution, mais ce sont des incapables et en plus, ils sont dangereux.
La perspective d'un gouvernement Ligue 5 étoiles fait aussi tanguer la bourse de Milan et le spread, l'écart entre les taux d'emprunt italien et allemand, révélateur de la confiance des marchés financiers, a sérieusement augmenté aujourd'hui. Le futur président du Conseil sera en charge d'appliquer un programme qui risque de créer des frictions avec le reste de l'Europe. L'Italie devrait chercher entre autres à renégocier les traités européens et imposer plus de solidarité à ses voisins sur la question migratoire.
C'est donc le nom de Giuseppe Conte qui tient la corde, mais sans l'accord du chef de l'État, rien n'y est joué, prévient le politologue italien Alcio Mastropaolo.
On a l'impression qu'ils sont forcés à s'entendre à ce point-là, parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils sont allés trop loin dans leurs négociations, cette histoire de contrat qui sous-signé. Donc, moi, je pense qu'ils devront aller chez le chef de l'État et lui proposer de faire au gouvernement, lui dire, bon, nous sommes d'accord, voici nos ministres, voici notre candidat premier ministre. Et tout ce qui reste, ils ont un programme politique. Il faut voir si ça va durer et s'ils sont en condition d'appliquer ce programme politique. Ce qui est plus compliqué, il faudra voir quelle sera la réaction du chef de l'État. Parce que il y a dans ce contrat et dans ce projet politique, et même de la manière il tente de nommer ou d'indiquer un chef du gouvernement, des aspects douteux du point de vue, disons, de la Constitution constitutionnelle.
Dès lors, le vote de confiance au Parlement pourrait ne pas avoir lieu cette semaine?
Bon, en principe, ils sont d'accord sur tout, mais il faut voir. Je ne suis pas si certain que ça pourra se faire dans la semaine. Naturellement, ils sont dans une condition d'urgence, parce que, bon, s'ils le font rapidement, les conflits qu'il y a naturellement entre eux, ça sera plus facile de les contrôler. Mais il faudra voir, C'est tout très incertain.
Alcio Mastropaolo, professeur de sciences politiques à Turin, répondait à Nadine Epstein. Madrid reconnaît les pouvoirs du nouveau président de Catalogne, Quim Torra, mais le gouvernement espagnol refuse de valider la composition de l'exécutif régional, prolongeant de fait la tutelle de Madrid sur la région. Pour le gouvernement de Mariano Rajoy, un cabinet comprenant des hommes en exil ou en détention provisoire relève de la provocation. Après la réélection de Nicolas Maduro au Venezuela, les 14 pays du groupe de Lima annoncent le rappel de leurs ambassadeurs. Le groupe, qui comprend notamment l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie et le Mexique, juge le scrutin d'hier non conforme aux normes internationales d'un processus électoral transparent et démocratique. Le ton s'est adouci vis-à-vis de la Chine, il se durcit encore à l'égard de l'Iran. Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, se rendra la semaine prochaine à Pékin en vue de finaliser un accord commercial dont les les grands principes ont été actés au cours du week-end. À l'inverse, le ton monte encore contre les dirigeants iraniens. Après s'être désengagé de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, les États-Unis, par la voix du secrétaire d'État Mike Pompeo, annoncent contre l'Iran les sanctions les plus dures de l'histoire, Grégory Phillips.
Oui, c'est devant un think tank conservateur ici à Washington que Pompeo, le nouveau patron de la diplomatie américaine, a détaillé tout à l'heure la nouvelle stratégie des États-Unis vis-à-vis du régime iranien. Il y a 2 semaines, on avait eu la sortie des Américains de l'accord sur le nucléaire. Et bien là, c'était en quelque sorte l'explication de texte avec des mots extrêmement durs, Aurélie, et 12 conditions fixées par Washington. Ça va de l'arrêt complet des programmes d'enrichissement d'uranium au retrait des troupes iraniennes de Syrie. Faute de quoi, prévient Mike Pompeo, faute de quoi Téhéran devra faire face à des sanctions sans précédent.
Nous allons nous assurer que Téhéran ne parviendra pas à obtenir l'arme nucléaire, ni maintenant, ni jamais. Nous allons appliquer au régime iranien des sanctions financières sans précédent. Les dirigeants à Téhéran ne doivent avoir aucun doute. Nous prenons ça très au sérieux. Le régime iranien doit savoir que ce n'est que le début. Ce volet de sanctions sera très douloureux si le régime ne change pas de cap. Quand elles seront complètes, ce seront les sanctions les plus dures de l'histoire.
Voilà, l'objectif des Américains, c'est de faire en sorte que plus jamais Téhéran n'ait de carte blanche pour dominer le Proche-Orient. Et puis il y a aussi ce message, mais adressé cette fois aux Européens et notamment aux entreprises européennes. Tous ceux qui continueront à faire du commerce avec Téhéran dans les domaines visés par les sanctions américaines seront tenus pour responsables. Si les pays européens voulaient connaître la stratégie américaine, eh bien la voici détaillée. Pression maximale sur Téhéran, pression aussi sur tous ceux qui s'aventureraient à faire encore des affaires avec le régime des ayatollahs.
Grégory Phillips, en direct de Washington. En Syrie, le régime de Bachar el-Assad a repris le contrôle total de Damas et des environs de la capitale. C'est une première depuis 2012. En 2 jours, plus d'un millier de djihadistes ont été évacués des quartiers du sud de Damas et du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk. Bonsoir Eric Bigala.
Bonsoir Aurélie.
Depuis septembre 2015 et l'intervention militaire de son allié russe, le régime syrien a multiplié les victoires face aux rebelles et aux djihadistes. Aujourd'hui, que reste-t-il du groupe État islamique en Syrie ?
Eh bien, contrairement à l'Irak, où l'État islamique ne contrôle absolument plus de territoire. En Syrie, les djihadistes sont encore bien présents sur 4 portions distinctes du sol syrien. Tout d'abord, près de la frontière irakienne, dans l'extrême est du pays, une bande de terrain d'une 100 kilomètres de long, du nord au sud et d'une 20 kilomètres de large, d'est en ouest. Il semble que plusieurs des cadres du califat, de l'ancien califat d'Abou Bakr al-Baghdadi, se trouvent dans cette zone qui est ceinturée par des unités des forces démocratiques syriennes à majorité kurde. Dans ce qu'on appelle le désert syrien, c'est-à-dire au centre du pays, entre Palmyre et Deir ez-Zor, les djihadistes sont également établis sur quelques centaines d'hectares totalement désertiques. C'est a priori vers cette poche, ceinturée elle par les forces du régime, que les quelques 1300 à 1600 djihadistes évacués cette nuit et ce matin du camp de Yarmouk, au sud de Damas, devraient venir se réfugier. Une troisième poche djihadiste se trouve, elle, collée aux frontières jordaniennes et israéliennes à l'extrême sud-ouest de la Syrie. Enfin, tout à fait de l'autre côté du pays, à l'extrême sud-est, sur la vallée de l'Euphrate et à la limite avec l'Irak, les djihadistes contrôlent encore la rive orientale du fleuve sur environ 35 km. C'est cette dernière poche que les forces démocratiques syriennes attaquent depuis plusieurs jours, appuyées par les forces spéciales américaines et françaises et les bombardements aériens de la coalition internationale.
Eric Biegala. Les autorités marocaines n'ont pas pris tout de suite le mouvement au sérieux, mais la campagne de boycott de certains produits jugés trop chers se poursuit depuis maintenant 1 mois. Et le mouvement né sur les réseaux sociaux prend de l'ampleur. Il vise les bouteilles d'eau minérale, le lait et les stations essence de 3 marques très connues. Les explications de Stéphanie Wenger à Rabat.
Sur le parking d'un hypermarché de Rabat, il y a peu de monde en ce milieu de matinée. Mourad est venu faire des emplettes. Il suit le mouvement de boycott depuis le début.
Je suis avec les Marocains. C'est les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et la vie augmente, les salaires ils sont en bas. Il y a le niveau, il y a les sociétés qui augmentent toujours leurs marchandises. Et c'est pas normal.
C'est le Ramadan au Maroc, une période de forte consommation où les prix grimpent. Karim est en train de ranger ses courses dans son coffre. Il se pose des questions sur ce boycott, mais sur le principe, il approuve.
Je peux le comprendre, mais pourquoi ces marques particulièrement, je n'ai pas compris. Peut-être parce qu'ils sont leaders sur le marché. Même au cas où j'en aurais envie, par solidarité, je les achèterai pas. Je ne sais pas, c'est symbolique aussi. C'est symbolique. J'espère, vis-à-vis des grands groupes, j'espère que le consommateur marocain pourra faire entendre sa voix.
Selon Abdel Mourid Ben Messaoud Tredano, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat, si personne n'avait prévu au départ l'ampleur de ce mouvement, il y a des enseignements à en tirer.
Les autres moyens d'intermédiation ont failli, les partis politiques, les associations, les syndicats, et même les mouvements sociaux ont failli. cette forme où il y a les réseaux sociaux. Donc c'est un moyen qui ne coûte pas, c'est un moyen pratique, c'est un moyen qui a de l'impact. C'est un moyen qui peut peut-être préserver l'anonymat. C'est un moyen qui ne comporte pas trop de risques.
Le boycott pourrait s'élargir à d'autres produits. Avec 3500 km de côte sur la Méditerranée et en Atlantique, les Marocains s'étonnent que le poisson soit si cher. Le mot d'ordre a déjà émergé sur les réseaux sociaux. Laisse-le dans la mer ou laisse-le pourrir.
Stéphanie Wenger. Plusieurs villes situées au nord et au centre de la Côte d'Ivoire sont confrontées à une grave pénurie d'eau. Parmi elles, Bouaké, la deuxième ville du pays qui compte 1,5 million d'habitants. Le lac qui alimentait Bouaké est presque à sec à cause du manque de pluie et de l'activité humaine. Et de nombreux habitants sont privés d'eau courante depuis plus de 2 mois. Seuls quelques quartiers et points de ravitaillement sont encore alimentés dans le sud de la ville. La Banque mondiale a promis d'aider l'État ivoirien à résoudre cette crise. Elle va financer un plan d'urgence. Mais le retour à la normale n'est pas pour tout de suite. Et en attendant, Bouaké fait face à la sécheresse. Esteban Pinel.
On a beau tourner le robinet, pas la moindre goutte n'en sort. Depuis 2 mois, à Bouaké, on assiste à un véritable balai de bidons et de bassines pour aller chercher l'eau là où elle se trouve encore.
On prend les brouettes, on pue l'eau avec des bidons dans les puits. C'est l'eau du puits, là, on prend pour aller aux toilettes.
Hervé, la quarantaine, vit à Bouaké. Il ne compte plus les allers-retours au puits. Toilettes, douche, cuisine, vaisselle. Même en faisant attention, le quotidien est forcément gourmand en eau. Un quotidien qui pèse sur les bras.
C'est lourd, c'est 5 kilos, c'est fatigant.
Il faut en ramener plusieurs en plus.
Oui, plusieurs, au moins 25 bidons par jour. C'est énorme.
Cette eau-là est traitée, mais Hervé se fait porte-parole de l'inquiétude des locaux.
On a très peur que ça s'aggrave, ça peut nous rendre malades. Normalement, on devrait prendre des mesures avant que ça n'arrive.
L'exaspération des habitants et des professionnels à l'hôpital, à l'université ou les toilettes ont même été condamnées par crainte des maladies. L'explication de cette crise se trouve à une quinzaine de kilomètres de Bouaké. La Loka, source majeure de la ville, est quasiment tarie. Alors quand autorités et experts viennent marcher sur la terre craquelée, anciennement immergée, le constat est implacable.
Les 3 dernières années, il y a une baisse, oui, progressive.
On est descendu pratiquement de 15 mètres par rapport à la passerelle.
Les derniers pêcheurs taquinent la carpe dans le lit de ce lac redevenu cours d'eau avec une question pour eux aussi. Comment en est-on arrivé là? Sédou Koulibaly est le directeur territorial hydraulique de Bouaké.
L'homme a aussi fait des carrières de sable où on a pris du sable pour les constructions. Avec les carrières qui ont été exécutées au niveau du bassin versant, cela constitue des pièges et quand il pleut, l'eau, au lieu de couler vers la digue, vers le barrage, cette eau-là est piégée de part et d'autre par les puits exécutés pour faire le sable.
Pas assez de pluie, le changement climatique est passé par là, et puis donc un mauvais ruissellement à cause d'une activité humaine incontrôlée. Ce point fait tiquer la Banque mondiale venue inspecter les lieux. L'institution finance un plan d'urgence de 7,5 millions d'euros environ pour des forages et un approvisionnement par camion-citerne, à condition que l'État ivoirien prenne les mesures qui s'imposent. Steven Schomberger de la Banque mondiale.
Il y a les sécheresses qui viennent, ils vont venir de plus en plus. Donc les petites choses comme assurer un grillage autour d'un réservoir, avoir des agréments avec la population autour de réservoirs sur l'utilisation de la terre, ce sont les choses qu'on peut faire facilement. Et en même temps, quand il y a les problèmes, que les autorités prennent les actions nécessaires.
La préfecture a ordonné l'arrêt des carrières de sable, dont certaines fonctionnaient sans la moindre autorisation. En tous les cas, la situation est telle que le retour à la normale n'est pas prévu avant 2020.
Esteban Pinel à Bouaké. Et outre cette crise, la Banque mondiale finance un plan pour améliorer l'acheminement d'eau potable dans les villes ivoiriennes à hauteur de 50 millions de dollars. Réforme constitutionnelle validée au Burundi. Une fois les résultats de ce référendum confirmés par la Cour constitutionnelle dans un délai de 9 jours, le président Pierre Nkurunziza pourra briguer 2 mandats supplémentaires à partir de 2020 et donc rester peut-être en poste jusqu'en 2034. L'opposition burundaise ne reconnaît pas le résultat de cette consultation. Près de 6 millions de fonctionnaires sont appelés à manifester demain, mardi. Salaires, effectifs, réformes en cours, les sujets de mécontentement s'accumulent et 9 organisations syndicales ont déposé un préavis de grève. Le 22 mars, lors de la dernière manifestation de la fonction publique, 320 à 400 000 personnes s'étaient mobilisées. Mais cette fois, le mouvement pourrait peut-être s'amplifier grâce à l'unité syndicale, Pierre Coquelin.
Les leaders de la CGT, de Force ouvrière et de la CFDT notamment, défilant côte à côte pour défendre la fonction publique. C'est une première depuis 2010. et le mouvement contre la réforme des retraites, un geste d'autant plus fort que des élections professionnelles ont lieu dans moins de 7 mois. Pour les revendications, eh bien, ça ne change pas par rapport au 22 mars. Plus de pouvoir d'achat, l'abrogation du jour de carence ou encore la fin du gel et la revalorisation du point d'indice pour les salaires. Cette manifestation, c'est aussi une manière de s'opposer à la suppression annoncée de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022. Les syndicats s'attendent donc à mobiliser, par exemple, du côté des écoles maternelles et primaires. Le SNUIP FSU table sur 20% de grévistes. Des syndicats qui dénoncent un manque de dialogue et des attaques. Un rapport d'experts, le CAP 22, attise les inquiétudes, en particulier sur l'extension du recours aux contractuels. Dans un entretien au journal Libération, le secrétaire d'État à la fonction publique, Olivier Dussopt, assure qu'il n'y aura pas de remise en cause du statut, mais des ajustements. Bref, le gouvernement essaye de calmer le jeu dans un contexte social déjà très tendu.
Pierre Coquelin. En cette fin de journée, une série de réunions s'enchaîne à Matignon pour évoquer l'avenir de l'audiovisuel public avec les PDG de France Télévisions et de Radio France. La réforme du secteur a été annoncée en début d'année par le président Emmanuel Macron. Elle semble avoir pris un peu de retard, mais on pourrait quand même connaître dans la semaine les pistes envisagées. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Des réunions à Matignon plutôt qu'au ministère de la Culture, c'est le signe d'une reprise en main et d'une accélération du processus?
Oui, même si la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, participe à ces réunions, on voit bien qu'il y a là une volonté de piloter les choses et de rendre les arbitrages au plus haut sommet de l'exécutif, puisque c'est le Premier ministre qui reçoit, donc à Matignon, d'abord la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, ensuite la nouvelle PDG de Radio France, Sybille Veil, avant que se tienne une réunion interministérielle sur la question avec notamment le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, pour sans doute évoquer le cadrage budgétaire dans lequel se déroulera cette réforme. D'ailleurs, peut-on vraiment parler de réforme ? Emmanuel Macron, lui, avait employé début décembre le terme de révolution qu'il entendait mener au sein de l'audiovisuel public. Audiovisuel public dont il avait dit à l'époque qu'il était une honte. Un système, selon lui, incapable de se réformer et de s'adapter aux nouveaux usages avec des dirigeants responsables devant personne et qui entretient des rapports incestueux avec des entrepreneurs abonnés à la commande publique. N'en jetez plus, on allait voir ce qu'on allait voir. Des propositions devaient être présentées avant fin mars, avait ajouté le chef de l'État en début d'année, et une loi votée avant la fin 2018. Les choses ont, semble-t-il, pris un peu de retard. La condamnation par la justice au mois de janvier de l'ex-PDG de Radio France, Mathieu Gallet, n'y est sans doute pas pour rien. Alors où en est-on aujourd'hui? On a encore du mal à y voir clair, mais l'exécutif semble effectivement donner un coup d'accélérateur avec ses réunions à Matignon. Les signes dont on dispose laissent imaginer une volonté de créer des synergies entre Internet, radio et télévision. On parle de créer des tranches d'informations en commun entre les télés régionales de France 3 et les locales de Radio France, France Bleu. Il est aussi question de transformer certaines chaînes de radio et de télévision comme France 4 ou Move en médias consultables uniquement sur Internet. Et puis on parle de plus en plus à France Télé comme à Radio France de médias globales, c'est-à-dire qu'on ne ferait plus de radio, plus de télé, plus d'articles numériques, mais un peu de tout ça en même temps.
À venir à découvrir, Stéphane Robert. Parcoursup, la plateforme qui a succédé à APB, livre ses secrets. Le gouvernement a en effet publié aujourd'hui les détails de l'algorithme au cœur de la plateforme qui donne accès à l'enseignement supérieur. En révélant ce code informatique à Kim Kasmi, le gouvernement affiche sa volonté de transparence.
Et oui Aurélie, concrètement, les algorithmes tiendront compte de plusieurs critères, comme la moyenne générale des élèves, leurs compétences, c'est-à-dire leur autonomie, leur méthode de travail, mais aussi leur capacité à s'investir. Mais il y a encore d'autres critères comme les lettres de motivation et les CV qu'il faudra désormais faire pour entrer à l'université. Des critères qui manquent d'harmonisation et d'objectivité, estiment les syndicats, notamment pour les lycéens issus des quartiers populaires qui risquent d'être pénalisés, notamment lorsqu'ils postuleront pour des universités dites prestigieuses, selon Valérie Sipahi-Mellani, secrétaire générale adjointe du SNES.
Certaines formations ont regardé le lycée d'origine des élèves et ça c'est particulièrement injuste parce qu'on peut avoir des élèves qui sont tout à fait au niveau d'une formation du supérieur dans un lycée qui a une mauvaise réputation, mais la réputation du lycée elle est totalement subjective. Donc là encore on a des injustices. En fait on finit par avoir pour l'entrée dans le supérieur des notes de gueule et les élèves en sont tout à fait conscients et trouvent cela injuste.
En attendant, à partir de demain, les élèves de terminale qui recevront des réponses positives n'auront qu'une semaine pour réfléchir, après quoi ils devront faire qu'un seul choix. Pour ceux qui n'auront que des réponses négatives ou en attente, une nouvelle session est prévue le 26 juin. Les académies auront pour obligation de leur trouver une affectation dans le supérieur à la rentrée de septembre. Le ministère estime qu'avec cette nouvelle plateforme, les deux tiers des élèves auront reçu au moins une proposition d'affectation avant les écrits du bac qui démarrent mi-juin.
Merci à Kim Kasmi. Et donc, les premières réponses aux vœux des futurs bacheliers devraient s'afficher demain soir. 227 magasins Carrefour sur les 273 que le géant de la distribution souhaite céder n'ont pas trouvé de repreneur et sont appelés à fermer cet été. Le groupe a signé en avril avec les syndicats un plan de sauvegarde de l'emploi pour l'ensemble des 2100 salariés concernés. Il a désormais comme objectif leur reclassement. Encore des orages demain, il pleuvra dès le lever du jour sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, les averses orageuses se renforceront sur la façade est. Il fera entre 8 et 13 degrés le matin sur la moitié nord, 11 à 15 dans le sud, 17 à 20 degrés l'après-midi de la pointe bretonne à la mer du Nord, 20 à 25 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.